Ouais. À 20 ans, j'aurais tout donné. Ouais, pour faire de la musique. Maintenant, à 43 ans. Bon. Heureusement. J'étais pas fait pour ça. Ouais. J'ai pas fait. J'ai pas donné ce qu'il fallait. Parce que, putain. Et puis. Quand je dis il faut se poser des questions sans arrêt. Mais c'est l'instinct. Je disais Nietzsche, les cours de Foucault, encore. Sur Nietzsche. Que la connaissance, c'est rien, c'est une illusion. On pourrait sans aller dans ces détails. Mais en fait, on vit par instinct, quoi. C'est. Qu'il soit développé ou non, on vit. Comme disait Talvas, le réalisateur avec qui je me suis entretenu, Guillaume, on fait la fainéantise, c'est par une économie de mouvement, quoi, pour durer plus longtemps. La paresse, je sais pas si c'est. Enfin, ça dépend quelle forme de paresse il est question. Si c'est économie d'énergie ou parce que t'as pas envie de le faire, quoi. Faut voir. Mais bon. Donc là, moi, je me demande. Pourquoi on est là, quoi? Vas-y, là, je sais. Pour chier. Ouais. Pisser. Exact. Chier, pisser. Et quoi d'autre? Manger? Bah, manger. Hop, manger. Du pain. Et bah, j'en avais là. Ouais, mais sinon. Je regardais un film avec Mel Gibson, là, Bloodfather, père de sang. Un ancien motard. Qui, comme beaucoup d'acteurs, a tout fait. Enfin, beaucoup de rôles plutôt. Le mec, il a tout fait à un certain niveau. Il est passé par les côtés les plus bas. Et puis, c'est le héros. Mais après, ouais. Mais ceux qui passent pas par les côtés les plus bas, c'est des héros aussi, différents. On fera pas de films sur eux, quoi. Enfin, en tout cas, ils vont pas inspirer des films. Mais il y a des motards qui inspirent des films. La vie de motard. Mais attention, pas n'importe quel motard. Moi, j'ai un motard en bas de la rue, là. C'est ce que j'appelle, moi, des vrais motards, quoi. Il vit pour. Mon nom, il est âgé, mais il a vécu pour la moto. Mais. Bah ouais, ces mecs-là, ils. Non, je parlais de motards. Bah, vous savez, les mecs qui sont en Harley Davidson, machin. Je parle de ceux-là. Hells Angels, ce genre, quoi. Même si ça, c'est pas en question dans le film. Pourquoi on fait tous ces trucs qui servent à rien? Pour s'occuper. Avoir l'air moins con, avoir l'air de connaître des choses qu'on connaît pas en fait. On connaît rien. Et quand on sait ça, on connaît tout, mais en fait on connaît rien dans la société. C'est toujours pareil de toute façon. Donc ouais, faut en un sens vivre assez égoïstement, malgré être auprès des autres, ouvert pour les autres. Il faut vivre pour soi, même quitte à donner sa vie pour quelqu'un, tu vois, c'est pour toi que tu le fais. Ton esprit, ton âme, j'en sais rien. Pourquoi cet enregistrement? Je sais pas. Mais j'ai plus trop d'idées en fait là. Alors, tiens, je pensais à ça, je vais m'enregistrer en train de manger, je me disais, ça va peut-être faire. Ça va être pas mal, quoi. Puis il fait chaud. J'aime pas quand il fait chaud.
Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas.
Lavage russe, qui est tous les jours, avec Johnny Chivbeck, qui parle de philosophie, d'actualité, en soi assez intéressant, n'est-ce pas? Et par quinzaine, donc, le mercredi soir, il y a The Russian for You, à 21h30 même, avec Helmut Schwartz. C'est essentiellement musical, n'est-ce pas? Et il fait quelques à-propos avec la barge russe, Johnny Chivbeck. Ces deux compères travaillent ensemble. Ils sont l'un pour l'autre et l'autre pour un, n'est-ce pas? Leurs émotions peuvent aller de pair, mais très, très rarement, je dirais. L'une peut aller sans l'autre et l'autre aller sans l'autre.
Barge russe 1061, la barge russe, que je nomme connaissance. Alors pour compléter, pour faire suite à l'introduction, lorsque je déjeunais juste avant l'introduction de cette barge russe 1061, je vais continuer donc avec le cours sur Nietzsche de Foucault, parlant de la connaissance. Dit-il, la connaissance est une invention, qui a eu ses préliminaires, ses conditions, ses ruses, ses raisons d'être, ses mécanismes, ses finalités. Je cite Friedrich Nietzsche dans Vérité et mensonge au sens extramoral de 1873. Dans quelques coins perdus de cet univers dont le flamboiement se répand en d'innombrables systèmes solaires, il y a eu une fois un astre sur lequel des animaux intelligents ont inventé la connaissance. Ce fut l'instant du plus grand mensonge et de la suprême arrogance de l'histoire universelle. Michel Foucault continue. Qu'est-ce qu'inventer la connaissance et pourquoi est-ce l'instant du plus grand mensonge ? La connaissance repose sur un faisceau d'instinct ou sur une lutte d'instinct ou sur une victoire d'un instinct sur un autre. Le triomphe du regard est l'instinct de la chasse. Or, écrit-il encore notre ami Michel Foucault, cela implique que si nous connaissons les choses, ce n'est jamais en ce qu'elles sont, mais en ce qu'elles concernent nos instincts, nos choix, nos désirs, nos violences. Notre connaissance est toujours une perspective, non pas une perspective au sens husserlien, entre parenthèses, un profil qui nous permettrait de saisir la plénitude même de la chose, mais une perspective qui fragmente la chose et nous empêche à jamais d'avoir accès à sa plénitude. Donc là, il nous prend un peu la tête. En fait, là, ce qui est important à remarquer sur ce point, c'est que la connaissance concerne nos instincts. Ensuite, deuxième point, cela implique que ce qui nous empêche de connaître les choses, ce n'est pas une limite à notre connaissance, ce n'est pas une finitude ou un obstacle extérieur. Ce qui nous empêche de connaître les choses, c'est nous-mêmes. En tant que nous connaissons, puisque nous connaissons à partir de nos instincts. Donc, je vais revenir. La raison qui nous empêche de connaître, c'est la connaissance elle-même. Puisque la connaissance s'enracine dans la non-connaissance. Entre parenthèses, le socle de notre bêtise. Donc là, quand je vous dis qu'il faut se poser des questions, tout ça, et ben lui, il dit que non. L'interprétation de Foucault de Nietzsche, et donc de Nietzsche aussi, j'ai confiance en ses cours, c'est l'instinct. C'est ce que je disais un peu au déjeuner, quand je déjeunais. Je mangeais un chili con carne d'ailleurs, qui était très très bon, assez épicé, j'aime bien quand c'est relevé. J'avais rajouté plein de trucs ultra forts, mais ultra quoi. Bref, qu'en fait, on est peut-être là pour ne pas se poser de questions et agir comme ça. Pour la connaissance vient enrayer l'instinct. Mais l'instinct primaire, primal. Nietzsche va plus loin. Pourquoi l'homme ne vit-il pas les choses ? Il se trouve lui-même dans le chemin. Il cache les choses. Ça, c'est Nietzsche dans Aurore. Conclusion. Donc là, je me réécoute, je monte l'émission. Mais en fait, on a besoin de connaître pour développer l'instinct. Afin que l'instinct... de mon point de vue, je pense que l'instinct peut se travailler, quoi. On est tous d'une certaine façon, mais il faut, pour se développer, il faut travailler l'instinct. C'est un diamant brut, l'instinct. Conclusion, donc. On peut voir alors pourquoi la connaissance est mensonge. Puisque pour fonctionner comme connaissance, il faut qu'elle se donne à elle-même les choses comme si elle les connaissait dans leur nature elle-même. Égale nature, virgule, une essence, virgule, un monde vrai. Ensuite, qu'elle écarte les obstacles comme s'ils étaient contingents. Qu'elle se donne comme libre par rapport aux mouvements et aux violences des instincts. Égale âme. La connaissance ne peut connaître que par un acte premier de recouvrement, d'illusion, de mensonge. La connaissance ne peut connaître que par recouvrement, d'illusion, de mensonge. Parce qu'en fait, ça peut-être qu'il veut dire, tu sais pas, mais tu es intéressé ou tu fais semblant de savoir, peut-être. Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire, mais on va voir ça plus près. La connaissance est illusoire, non parce qu'elle est en proie à l'erreur, mais parce qu'elle pose l'illusion qui la fait elle-même exister. Connaître n'est possible qu'à partir de l'illusion. Donc ça, c'est philosophique. C'est le genre de truc qui ne sert à rien, mais dans un cours qui remplisse les lignes. Selon mon interprétation, à John Tiefbeck cette fois. Cette illusion, c'est la vérité, écrit-il, qu'il y a une essence des choses et qu'elle est cachée sous leur apparence. Oui, c'est juste que la connaissance et la morale sont liées l'une à l'autre dans une perfection commune, que la connaissance est bonne et que le bien consiste à connaître. Ça, on est tous d'accord, j'espère. Ensuite, plus loin, un petit chapitre qu'il appelle la fable de la vérité, un paragraphe plutôt. Si connaître à leur condition première l'illusion, si c'est à partir de cette illusion que la connaissance est possible, alors qu'en est-il de la vérité ? Ne faut-il pas admettre une connaissance sans vérité ? Mais alors, qu'est-ce que connaître, si connaître n'est pas connaître la vérité ? Bien, qu'est-ce que connaître ? Peut-être que là, on pourrait dire connaître, si tu connais pas la vérité, eh ben, tu connais des choses pour le monde de la réalité. La vérité, selon moi, est du côté invisible. Cet endroit où, dans lequel on est tous, on appartient tous au côté invisible, mais qui est caché justement par l'illusion. Par l'illusion, donc par la connaissance. Car sans illusion, pas de connaissance, selon Nietzsche et Foucault, dans son cours. Donc, connaître a peut-être deux valeurs. Connaître a la valeur de connaître dans la réalité, plein de connaissances, donc là, on dit être cultivé. Mais la connaissance dont parlent Nietzsche et Foucault est l'intelligence, qui, elle, prend tout du côté invisible. Bon, c'est ma définition des mots. Et pour finir, son cours. Alors, la connaissance consistera à entreprendre cette longue expérience sur soi comme destruction de soi, et dont on ne peut pas savoir jusqu'où elle ira. La vie elle-même doit être une expérience et un moyen de connaissance. Ce jour où m'est venue, je cite, « Ce jour où m'est venue la grande libératrice, l'idée que la vie pouvait être une expérience. Quant à la connaissance elle-même, c'est un monde de péril, c'est un univers de victoire. La vie est un moyen de connaissance. Quand on a ce principe au cœur, on peut vivre non seulement brave, mais heureux. » Ça, c'est extrait du « Gai savoir ». La connaissance, donc là je continue son cours à Michel Foucault, la connaissance n'est plus à l'échelle de l'humanité. Tant qu'on a cru au salut, la connaissance n'est plus à l'échelle de l'humanité, tant qu'on a cru au salut. On a cherché à savoir des connaissances qu'on pouvait acquérir durant le temps de la vie. Maintenant, on accepte le mouvement indéfini du tâtonnement et de l'erreur. Nous avons reconquis le bon courage à errer, à essayer. Et c'est justement pour cela que des individus et des générations entières peuvent envisager des tâches si grandioses qu'elles seraient apparues autant jadis comme de la folie et un jeu impie avec le ciel et l'enfer. Ça, c'est tiré de Aurore de Friedrich Nietzsche. Donc j'ai retrouvé, on parlait avec mon invité Guillaume Talvas de films, il est réalisateur de films notamment, entre autres choses, et on a parlé du Bon de la Brute et du Truand, la trilogie du dollar de Clint Eastwood, et la musique de Ennio Morricone notamment. Et donc là, on parlait d'une scène que lui, Guillaume, aimait beaucoup. Et il savait que c'était Gol, le titre. Et bon, c'était passé la semaine dernière, normalement, le jeudi et vendredi. Et en fait, j'ai retrouvé le vinyle. Je l'ai. Et j'ai retrouvé, c'est Ecstasy, The Ecstasy of Gold. Et donc, je vais vous le passer. Et il parlait de ça en plan séquence sur une caméra longue portée ou je ne sais plus quoi. Et en fait, on avait l'impression qu'il allait vite. Mais c'est l'impression qu'il allait vite. Mais
il allait normal, quoi. Il courait normalement, bien sûr. Bien sûr. Et ça n'avait pas un désir que ce soit rendu. Voilà, faut que je remette encore les trois tours. Hop. The good, the bad, and the ugly. You know, baby love, yes, I know, thank you very much. Oh, yes, it is. On était en voiture avec la famille et j'ai trouvé un exemple de la vérité qui pourrait servir d'exemple. Par exemple, mes enfants, des fois, ils s'assoient mal. On mange et ils ont eu les jambes sous leurs fesses, ils sont accroupis en tailleur en train de manger. On est à table. Et là, je leur dis, bah non, on s'assoit bien à table, tu seras mieux pour manger. Et ce sera plus commode pour le... commode pour toi de manger, et tu verras, tu seras mieux, et pour ton futur, ce sera mieux aussi, tu prendras pas de mauvais, tu vas pas te tordre le dos à faire n'importe quoi. Et donc ça, c'est une vérité, rien que par le fait de ne pas se tordre le dos plus tard. Et puis, au niveau de la commodité, ça, c'est pour moi une vérité générale. Exemple. Je prends l'exemple comme un autre, on va de soi. Exemple, en fait, la connaissance n'est qu'une illusion. Là, on écoute Lou Reed, Ecstasy, l'album Ecstasy.
Ce qu'il faut, Adrien, rester de donc, exemple, c'est ça. Deux personnes, on va prendre l'exemple de deux personnes. Bon, il y a un mec, il appelle un autre. Et il dit quelque chose que l'autre, bah, il n'apprécie pas. L'autre lui raccroche au nez. L'autre, donc celui qui s'est fait raccrocher au nez, il rappelle. Et, ah, on a été coupé et tout. Et donc l'autre dit non, c'est moi qui ai raccroché au nez parce que ce que tu disais, c'était un peu nul, quoi. Ça me plaisait pas. Et voilà. La discussion s'arrête un peu comme ça. Et donc là, le truc, donc, et après ils en reparlent, ces deux personnes. Mais pourquoi tu m'avais raccroché au nez Et donc tu réponds, tu dis, ah, parce que c'était nul, quoi, ton truc, j'ai pu. C'est fini, quoi, cette histoire. Et bon. Et là, je me suis dit, en imaginant ça, que la connaissance est une illusion. Car le gars qui demande pourquoi est-ce que l'autre a réagi comme ça, eh bien, il s'en met pas en cause, quoi. Donc, la connaissance du truc « tu m'as raccroché au nez » est une illusion de la vraie vérité, qui est le pourquoi l'autre a raccroché au nez. Si le mec qui s'est fait raccrocher au nez n'avait pas fait ce qu'il n'avait pas dit ou fait ce qu'il a fait, ben, il n'y aurait pas eu de problème. Et s'il y avait pensé, il n'aurait pas posé la question après, pourquoi tu m'as raccroché au nez ? Voilà. À présent, toujours sur les cours sur Nietzsche de Michel Foucault, est présent une conférence sur les éditions Seuil Gallimard. Et là, c'est vraiment, il y a pas mal de trucs intéressants. Nietzsche se définit lui-même comme chercheur de vérité. Et vraiment, j'ai annoté beaucoup de choses. J'ai pris la place du professeur Schmidli parce que vraiment là, c'est personnellement, ça me touche. De sorte que l'analyse n'est jamais extérieure, elle est toujours fondée sur soi-même. D'accord ? Et là, j'avais noté identification, illustration. L'analyse n'est jamais extérieure, elle est toujours fondée sur soi-même. Quand tu analyses, tu te dis par rapport à moi, en fait. Tu t'identifies d'une certaine manière, tu t'illustres dans ce que tu vois dans la personne ou quoi que ce soit. Or, de la connaissance, et par exemple, la ressaisir à son commencement dans cette détermination externe, là où elle s'articule sur des instincts, là où elle est liée à une histoire des races, des systèmes politiques, des maladies. hors de la connaissance. Hors de la vérité, maintenant, entre parenthèses, en montrant qu'elle n'est rien d'autre qu'un entrecroisement d'erreurs, ce que son histoire est celle d'une fable. La vérité. Ensuite, un autre chapitre qui se nomme « Que la connaissance soit une invention » signifie qu'elle n'est pas inscrite dans la nature humaine, la connaissance. Tu n'es pas avec les connaissances, en fait. On ne naît pas roi, on le devient. C'est tiré de ça aussi. Hein. La possibilité de la connaissance n'est pas une loi formelle. Elle trouve sa possibilité dans un espace de jeu où il est question de toute autre chose qu'elle, c'est-à-dire des instincts et non pas de la raison ou du savoir ou de l'expérience. Du doute, de la négation, de la dissolution, de la temporalisation et non pas de l'affirmation, de la certitude, de la conquête, de la sérénité. Voilà ce qu'est la connaissance. Par rapport à des dimensions parallèles, j'ai annoté. Et qu'elle n'est pas inscrite dans la nature humaine. Là, j'avais annoté. Ouais. Qu'elle n'est pas inscrite dans la nature humaine, la connaissance. Certes, mais l'envie, le besoin de... Tu connais des choses quand même, quand tu nais, qui se développent. Qui doivent se développer dans ton existence. Ils doivent se développer dans ton existence. Et là, c'est le repli de l'âme, le salut de l'âme, qui n'est pas inscrite dans la nature humaine, dans les réincarnations. Et là, c'est peut-être une frustration de dire quelque chose comme ça, de la part de Friedrich Nietzsche. Peut-être. Mais quand on a des connaissances qui sont à la naissance, on a des trucs qui sont innés, quoi. Des connaissances qui sont bonnes à développer, qui doivent se développer. Voilà. Il n'y a pas d'instinct de la connaissance. L'intellect est au service des divers instincts. Ça, c'est dans la volonté de puissance. Continuons. La connaissance, ce n'est pas l'opération qui détruit l'apparence. Ce n'est pas non plus le vain effort qui demeure toujours dans l'apparence. Et là, il écrit un truc, Foucault, qui me fait penser à Deleuze. C'est ce qui constitue indéfiniment la nouveauté de l'apparence dans la percée de l'apparence. Donc là, dit comme ça, je pense que on comprend pas. Mais moi, je comprends plus ce que j'ai souligné. Mais la connaissance, c'est bien ce qui va au-delà de l'apparence. Ce qui méchamment la détruit, la soumet à la question, lui arrache ses secrets. Il faut dresser l'acharnement meurtrier du savoir. Et en fait, à tout ça, à la connaissance et tout ce qui a pu être écrit avant, on découle des conséquences, forcément. La connaissance sera toujours perspective inachevée. Elle ne sera jamais close sur elle-même. Elle ne sera jamais adéquate à son objet. Car évolution du temps. Elle sera toujours séparée d'une chose en soi, la connaissance, car il y a évolution. Pour Nietzsche, ce qui nous empêche de connaître, c'est cela même qui fait le support, la racine, le dynamisme de la connaissance, sa force et non point sa forme, qui est l'instinct, la méchanceté, l'avidité de savoir, le désir. Mais ce qui à la fois empêche et constitue la connaissance, c'est tout autre chose que la connaissance. Mmh. Pourquoi l'homme ne voit-il pas les choses ? Il se trouve lui-même dans le chemin. Il cache les choses. Ça, c'est de son livre Aurore à Nietzsche. Et j'ai annoté, ce qui empêche de connaître est autre chose que la connaissance. Je répète, en fait. Ce qui empêche de connaître est autre chose de la connaissance. C'est l'envie aussi, peut-être. Notamment, le principe, la connaissance a été inventée, mais la vérité, elle a été plus tard encore. Mais tu sais, ce qui empêche de connaître, c'est autre chose que la connaissance. Parce que si c'est pas dans nos savoirs, nos connaissances, et qui sont innées, connaissances à développer, bien sûr, j'entends, mais qui sont en nous, qui sont plus faciles peut-être à comprendre dans certains domaines. Si c'est un domaine qui touche pas à ça, bon, bah, tu t'y intéresses pas forcément, quoi. Donc ça va t'empêcher de connaître. indirectement. Et ensuite, là j'ai trouvé un truc qui était pas mal du tout. Les paradoxes de la volonté de vérité. S'il est vrai que la vérité est violence faite aux choses, c'est pas, que la vérité est violence faite aux choses. Quand tu dis la vérité, ça casse quoi. Ça peut casser. Une vérité véritable quoi. Elle est bien dans la ligne même de la connaissance. Elle est un produit ou un effet de la connaissance. Elle n'en est pas la norme, ni la condition, ni le fondement ou la justification. Il faut aller plus loin. Si la vérité est destruction de l'illusion de connaître, mais si cette destruction se fait au rebours même de la connaissance, et comme destruction de la connaissance elle-même, alors la vérité est mensonge. Et alors là, j'ai annoté « waouh ». Le monde apparent et le monde mensonger, c'est là l'antagonisme. Donc le monde apparent, c'est pour les Bergerus la réalité, le monde mensonger, c'est le côté invisible. C'est là l'antagonisme. Ce dernier est appelé jusqu'ici le monde vrai, le monde mensonger. C'est comme ça que... Faut, d'après toute la lecture, hein, là je suis un peu, c'est un peu dommage pour vous et puis un peu bête de ma part de vous donner que des bribes, mais le monde vrai, la vérité, Dieu. C'est celui-là qu'il faut détruire. La volonté de puissance. Et ces paradoxes nous montrent que la vérité n'est pas vraie si elle est une connaissance, puisque toute connaissance est une illusion. Comme on a pu le voir précédemment, la vérité n'est pas vraie dans la mesure où elle est une non-connaissance, puisqu'elle surimpose ou substitue à la connaissance un système d'erreurs. La vérité n'est pas vraie quand elle prétend être une connaissance, elle est mensonge. Alors maintenant, j'ai tiré une conclusion, des notes tout de suite après avoir lu ça. De quelle vérité Nietzsche avance les siennes ? Lui, il parle, il est sûr de lui, quoi. Il dit non, c'est comme ça, ta ta ta. Ce qui n'empêche pas d'aller plus loin et d'être un grand philosophe, bien sûr. Mais de quelle vérité Nietzsche avance les siennes ? À partir de sur quoi il se base ? C'est pas une traduction, si on veut, mais c'est pas une traduction qui est normée. La vérité est un équilibre. C'est mon point de vue, c'est selon moi, la vérité est un équilibre qui se maintient par instinct, connaissance, etc. Or, dans tous les écrits de Nietzsche, selon Michel Foucault, ne sont pas pris en compte les facteurs de la totalité. Ne trouvant de correspondance dans les connaissances substituées aux instants. Connaissances substituées aux instants, donc c'est indéfini, c'est l'enrichissement qui s'exerce à travers le temps qui passe. L'illusion de la connaissance s'autodétruit, selon le cours de Foucault, par le mensonge. Et là, je me suis dit, mais si la connaissance est une illusion, le mensonge aussi. L'illusion, donc moi je préfère écrire, l'illusion de la connaissance s'autodétruit par son illusion du mensonge. En fait, ça revient à... Or, de mon point de vue, encore une fois, l'orientation se nomme depuis l'instinct. Quand on sent de faire quelque chose, on va en direction de la vérité. Mais cette vérité, qui pour Nietzsche a été le... Tous ces essais sont quasiment cités. Non, pas tous, mais beaucoup. Dans tous ces livres, il en parle un peu. Mais ça va en direction de la vérité, pour moi, depuis mon point de vue, mais la vérité pour l'autre. La sienne qu'on cherche à imposer, comme dit Nietzsche, mais pour le bien de l'autre, un respect qui mais c'est toujours la même chose, les définitions des mots, mais un bien-être, pour un désir de bien-être pour l'autre et pour soi, bien sûr. Aux yeux de la logique instituée, j'avais écrit méta-instituée. À propos de l'institution, quoi. Bon, de la logique instituée, même si c'est pas très bien de dire ça, mais instituée pour la vérité. Donc pour le meilleur, quoi. Et là, j'ai écrit tout ça. Et avec cette illusion du mensonge, qui il n'en est pas question dans la conférence de Foucault, et puis ainsi que cette vérité, qui selon moi doit aller en direction de l'autre, qui doit partir de soi, mais de son inconscient, de l'inconscient qui appartient à chacun, mais vers l'autre. La vérité, c'est ça, c'est le bien total, quoi, dans sa totalité. Et quand j'ai compris ça, comme Nietzsche l'écrit un peu plus tôt, par rapport à, je sais plus, bah, ça, aussi lui, bah, une découverte qu'il avait faite, c'était génial. Après, il écrit, et ben moi, c'est pareil, la même chose, j'ai arrêté de lire. Et j'ai écrit en gras, en grosses lettres, abandon de la lecture, entre parenthèses, dépassement cognitif. Ouais, j'ai eu l'impression d'être... Waouh, que Foucault m'a vraiment ouvert les yeux, Nietzsche aussi forcément, sur une préoccupation peut-être, ou non, mais qui j'ai vraiment compris la profondeur de ce que je lisais.
Hatred and of this ugly soul, if he murdered his father, he thought he'd become whole. While listening at night to an old radio, where they danced to the rock minuet. In the gay bars in the back of the bar, he consummated hatred on a cold sawdust floor. While the jukebox played backbeats, he sniffed a coke off a jar. While they danced to a rock minuet. His jacket were as cold as a breeze as he danced to a rock minuet. Picture the bedroom where he heard the first cry, his mother on all fours, yell hurt so much, he had wished he'd gone blind, and rocked through a rock minuet. In the back of the warehouse were a couple of guys. They had tied someone up, sewn up their eyes, and it got so excited he came on his thighs, and they danced to the rock minuet. shook and pinned an alley, and then pulled a knife. I thought of his father as he cut his windpipe and finally danced to the rock. Curse of the alley, the thrill of the street, on the bitter cold docks where the outlaws all meet. Euphoria drug and euphoria heat. You could dance to the rock minuet. In the thrill of the needle, sex, you could dance to the rock minuet. So when you dance hard, slow dancing, when you dance hard, slow dancing, when you dance hard, slow.
Rock Minute, Minuette, de l'album Ecstasy de Lou Reed. Ecstasy, pour faire un clin d'œil à Ecstasy of Gold par Ennio Morricone qu'on a écouté juste avant. Nietzsche formule cette histoire de quatre façons différentes. L'histoire est fin de la vérité. Mais avant d'en arriver là, j'écoutais Rock Minuette et je me disais, par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant, que avec la connaissance et le message et le mensonge, avec la connaissance et le mensonge qui sont illusions, la volonté de la vie et ses erreurs sont en nous. Donc, pas nécessaire, dans le temps, pour le temps, et ses évolutions, et son évolution. Peut-être que oui, la connaissance est un message. Le mensonge est un message. Et là, Nietzsche formule cette histoire de quatre façons différentes. À propos de la fin de la vérité. La sélection. La vérité comme erreur utile à une espèce. Tous ceux qui ne croient pas à cette vérité se condamnent. Entre parenthèses, les fous. Par là, la vérité perfectionne l'espèce, ou plutôt la transforme, en la renforçant, en la rendant plus puissante. Dès l'origine de la vie organique, une cruauté inouïe a éliminé tout ce qui sentait autrement. La science n'est peut-être que le prolongement de ce procédé d'élimination. Ça, c'est tiré de la volonté de puissance. Et ensuite, il parle de la destruction. Foucault.
Autre histoire, inverse, connaître la vérité ou plutôt avancer dans la présomption de la vérité. C'est en fait aller à la destruction de celui qui connaît. Puisque c'est substituer l'être au devenir, puisque c'est substituer les choses au signe, puisque c'est substituer l'âme au corps, puisque c'est substituer à ce monde-ci un autre monde. À la fois un inconnu et vrai. Tout se passe du côté invisible. La disparition de la vérité, ok, enfin la vérité, c'est ce qui aujourd'hui doit être détruit. Ce dont il faut nous affranchir. Il faut l'attaquer parce qu'elle est dangereuse pour la vie. Ouais, elle est utilisée à très mauvais escient. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, mais même à son époque aussi, à Nietzsche sûrement, la vérité est maintenue, est tenue par le grand contrôle, par les grands, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir. Donc la vérité, c'est, pas totalement, mais on prévient contre les écrans, mais on donne quasiment les écrans. On les donne les téléphones. Tu vois, moi j'ai un téléphone super, dernier cri Samsung A55, ouais, mais je l'ai pas payé, quoi. Ouais, avec l'abonnement du... Parce qu'il faut un abonnement avec, sinon ton téléphone ne marche pas. Et ils te font gagner des écrans. T'as des écrans que tu peux gagner. Je viens de le dire, d'une autre façon. Tout tape là-dedans. Et la vérité, et si tu veux la vérité, il faut que tu ailles voir sur Internet. C'est les écrans. Mais c'est quoi cette vérité d'Internet? Et tu sais, tous les matins, moi, tiens, quand j'ai un 55 maintenant, un Samsung, et ben je me suis réveillé le matin et puis j'ai allumé mon téléphone pour voir si j'avais eu des messages. J'en avais pas, mais j'ai regardé dedans, je m'intéressais à quelque chose, donc je regarde. Et après je laisse. Ça m'a tenu pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et après, ça m'a explosé les yeux, mais toute la matinée, quoi. Oh ben, je suis pas habitué encore à ça, mais j'ai pas envie non plus de m'habituer à ça. Mais c'est cette vérité-là, c'est, il faut reconditionner, il faut déconditionner même tout. Nous tous qui sommes conditionnés par le conditionnement, par le contrôle, par la consommation, par le conformisme, par les cons. Peut-être que les cons, c'est eux qui vont nous aider. Mais c'est encore ce que je vous disais. Mais non, oui, c'est qu'en fait, ceux qui ne se posent pas de questions, il y a des personnes qui ne se posent pas de questions, j'en connais beaucoup, énormément, qui sont par là très gentils aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est ces personnes-là qui vivent dans l'instinct aussi. Mais un instinct qui est contrôlé par la vérité, qui est complètement artificielle, qui n'est plus leur vérité, mais une vérité installée pour le conditionnement. Allez, salut.
Jamais en retard, toujours en avance. Mais qu'est-ce qu'il fout? Eh ben, il vient pour t'attendre.